Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti!
On s'y aime, on s'y déchire et on s'y crêpe le chignon. Miroir déformant ou révélateur social, que dit de nous qui la regardons la télé-réalité? C'est l'heure du bilan avec Pauline, salut.
Salut Clémentine.
Alors, quelles sont les news? D'abord, Jean-Michel Blanquer a décidé officiellement de l'interdiction de l'écriture inclusive à l'école. Voilà, c'est encore une fois ce qui s'appelle avoir le sens des priorités. On ne le remercie pas.
Je pense que ça n'est pas une bonne idée. Vous savez, là aussi, je dis lire, écrire, compter. On doit revenir aux fondamentaux sur le vocabulaire et la grammaire. Arriver à ce que les enfants aient une vision claire de la construction d'une phrase. Je trouve que ça ajoute une complexité qui n'est pas nécessaire. Je me considère comme féministe.
Tandis qu'à l'étranger, aux États-Unis et en Angleterre, c'est l'interdiction des thérapies de conversion pour les personnes LGBT qui a été enfin décidée. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Et donc, dans l'actualité, l'Élysée aurait des réserves quant à la panthéonisation de l'avocate féministe Gisèle Halimi.
Tiens, tiens.
Donc, on tombe un peu de sa chaise en apprenant ça. Ce serait à cause de ses prises de position pendant la guerre d'Algérie. Pour citer l'historienne Karima Diresh, qui était interviewée sur France Culture à ce sujet, que c'est quand même une figure de la lutte anticoloniale et antiraciste en plus de la lutte féministe. Figure aussi de la lutte contre la torture, du soutien à l'indépendance et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle a défendu des militants nationalistes indépendantistes algériens, ce qui lui a valu l'admiration, mais aussi évidemment la haine des conservateurs racistes qui prônaient l'Algérie française. Elle a défendu notamment Djamila Boupacha, qui a été violée et torturée par des militaires français. C'est quand même une figure qui mériterait cette entrée au Panthéon. Et donc, on est quand même assez surprise que ça fasse l'objet d'une polémique.
Bizarre qu'on en soit toujours là. Pour rentrer dans le vif du sujet, qui est donc la télé-réalité, on en a parlé dans l'actualité ce mois-ci, puisque plusieurs candidates des anges de la télé-réalité ont dénoncé des faits de harcèlement à la fois entre candidats et candidates, mais aussi de la part de la production, qui encouragerait les conflits. Il a même été question de personnes enfermées dans des pièces.
La production m'a enfermée à clé dans une chambre.
Quoi?
Oui, c'était
pourquoi,
ça
pourquoi,
mon...
Pourquoi vous
alors, parce que j'ai été agressée. En fait, là,
c'est incroyable.
Ça, le problème. Ouais. C'est que j'ai été agressée par deux candidats physiquement. Ce ne sont pas ces candidats qui ont été sanctionnés. Non, c'est moi qui l'ai été.
Mediapart a enquêté. Est-ce que tous les coups sont réellement permis? En vrai, c'est la société de production, la grosse équipe, qui est surtout visée. En lisant cet article, on apprend qu'il y a sur les plateaux ce qu'on appelle un stimuli, qui est donc une personne de la production qui est présente sur les tournages, qui doit être proche des candidats et des candidates, mais qu'on ne voit pas à l'écran. On apprend aussi qu'un candidat particulièrement violent et récalcitrant a été recyclé à plusieurs reprises dans des émissions. C'est Raphaël Pépin, qui est donc aujourd'hui accusé par plusieurs candidates d'être à la fois sexiste et violent. Évidemment, la production se défend de toute entourloupe, mais en réalité encouragerait par derrière ses comportements pour faire de l'audience et tout en écrivant évidemment les scénarios des épisodes à l'avance. Mais avant de parler de tout ça, rembobinons, d'où ça sort et d'où ça vient la télé-réalité, quelles sont ses origines?
Alors, la télé-réalité, elle a émergé dans les années 90 aux États-Unis avec des émissions comme The Real World sur MTV qui s'inspirait elle-même de la série documentaire de PBS de 1973, An American Family. Donc, on dit que c'est ce show The Real World qui a lancé le genre de la télé-réalité moderne. Le principe, c'était déjà en fait de réunir des jeunes gens dans un même logement pendant plusieurs mois, de les filmer et de chroniquer les conflits qui, bien sûr, ne manqueraient pas d'émerger au cours de leur cohabitation. Et d'ailleurs, a posteriori, on se rend compte à quel point c'était déjà un show raciste, puisque quand le casting de la première saison a été de nouveau réuni récemment pour un reboot, les personnes racisées qui étaient présentes dans la première saison et qui ont pu s'exprimer à ce sujet se sont plaintes d'avoir été montrées comme des licornes, c'est-à-dire sans nuance, sans pouvoir parler de leur histoire et avec des figures mises en scène par la prod qui étaient censées coller à des stéréotypes comme la figure du angry black man, de l'homme noir en colère, et elles ont pu se plaindre de ça. Donc déjà, à l'époque, on avait déjà cette mise en place de discours, en fait, plein de stéréotypes qu'on allait retrouver dans les shows qui allaient suivre The Real World. Someone's gonna hate me. It's probably gonna be you in 3 weeks. Someone's gonna hate me,
though. Why? I don't know. Why do you have weird habits? Et justement, dans les années 2000, arrive Big Brother, qui était également basé sur la cohabitation de candidats, mais cette fois-ci coupé du reste du monde. C'est un concept qui a été homologué et imaginé par une société hollandaise qui est bien connue aujourd'hui, c'est Endemol. Et d'ailleurs, par la suite, Endemol a été racheté puis revendu par Silvio Berlusconi, ce qui est quand même pas anodin. Il y a eu ensuite Survivor et d'autres modèles qui ont été déclinés chez nous, souvent par M6 puis TF1.
Et en France, dans les années 2000, on a eu le fameux Loft, Loft Story, première émission de télé-réalité adaptée de Big Brother, justement, et diffusée sur M6, avec 11 célibataires filmés 24h sur 24 dans un loft.
11 célibataires coupés du monde.
Philippe.
Laure.
Aziz.
Loana.
Jean-Édouard.
Julie.
Sylvie.
Kimi.
Fabrice.
Kenza.
Et Christophe.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez.
Après, il y a eu d'autres shows par la suite, comme Nice People, Secret Story en 2007, Le Bachelor, qui vient des États-Unis, L'Île de la Tentation, La Ferme Célébrité, avec des personnalités qui bossaient dans une ferme à l'ancienne. Je ne sais pas si tu te souviens, Clémentine. Et plus récemment, Les Anges de la Télé-Réalité, ou Les Anges, qui regroupe d'anciens candidats de différentes émissions de télé-réalité dans une villa à l'étranger. Donc, on recycle à fond. Ces formats reprennent globalement le principe du huis clos, avec un casting taillé pour camper des personnalités archétypales, avec la nympho, le macho, la bonne amie, le fuckboy, etc. Enfin, c'est des figures qu'on va retrouver. Et dans Secret Story, ça passait par exemple par le secret des membres qui devaient le préserver à tout prix. Par exemple, j'ai eu 780 conquêtes.
Mais bien sûr.
Il y en a eu d'autres dont on va parler plus tard. Et voilà, avec parfois quand même des excursions à l'extérieur de la maison quand il y a par exemple des rencarts amoureux ou des rendez-vous professionnels pour les anges qui cherchent à percer dans la ville où se passe la saison.
Il y a un autre marqueur temporel qui est important, puisqu'au moment où on vous parle, c'est bientôt la fin de la famille Kardashian, qui s'appelle en anglais « Keeping up with the Kardashians », qui va finalement s'arrêter, peut-être tant mieux, au bout de 20 saisons.
All right, we're ready.
No, you're back here.
The wind, you guys, is necessary.
No change.
Awful. No, that is not cute.
Yeah, go on.
I need someone to make me laugh.
Where's Kim?
Kim is always late.
Oh. Here.
Get out of our way.
Stop. Jealous.
Enough.
Stop.
Enough.
That's it, we're done.
Voilà, c'était des stars qui devenaient connues à partir de rien et qui devenaient elles-mêmes des marques. Pour reparler du début de l'émission, elle a été diffusée en France, notamment sur MTV, et aux États-Unis, la famille Kardashian avant. Donc le show s'est d'abord fait connaître par le procès de O.J. Simpson, qui était donc un sportif accusé de meurtre, car Robert Kardashian, qui est donc le patriarche de cette grande famille, était son avocat. À l'époque, sa femme, Kris, était une socialite, ce qu'on appelle une mondaine en anglais, et leur fille, Kim Kardashian, on l'a un peu oubliée, était d'abord styliste de star, et surtout, elle avait fait une sextape avec le frère de la chanteuse Brandy, et cette fameuse sextape avait fuité. Voilà, donc ça, c'est vraiment les débuts de la série sur les Kardashians. De l'autre côté de la famille, en face, il y avait aussi Caitlyn Jenner, qui est une femme trans et qui était d'abord célèbre comme championne olympique avant sa transition. Il faut savoir que le producteur de tout ça, c'est Ryan Seacrest, a copié tout simplement le concept d'une autre émission qui était la famille Osbourne et l'a simplement décliné, suivant le principe d'une structure de sitcom au début. Voilà, donc cette famille que l'on a accompagnée enseigné pendant des années, a elle-même suivi l'essor, par exemple, d'Instagram et de toutes ces personnalités qui sont connues parce qu'elles sont connues. Voilà, c'est un peu une tautologie. Mais en tout cas, les questions que nous pose la télé-réalité sont assez proches finalement des problématiques de genre, de classe, de race. Est-ce que c'est un reflet de la réalité? Est-ce que ça contribue à produire la réalité? Ou bien est-ce tout simplement de la fiction?
Ouais, ça ouvre des discussions assez passionnantes. Dans un article de Slate intitulé « La télé-réalité du divertissement à l'abrutissement », que je trouve qui est un très bon titre, des travaux de recherche sont cités qui expliquent que la télé-réalité a des effets sur les comportements et que ces programmes ont un impact préjudiciable, a priori, sur les perceptions du monde de celles et ceux qui les regardent, en diffusant notamment des croyances normatives qui ne sont pas anodines. Donc, par exemple, en valorisant l'individualisme, la compétition, l'exposition de soi au mépris de toute intimité, etc. Donc ça, il y a certains chercheurs, chercheuses qui estiment que ça peut avoir des conséquences sur les perceptions des individus. Par ailleurs, il y a aussi le CSA qui s'y est intéressé, évidemment. Dans un rapport publié en 2016, il explique que les programmes de divertissement étaient particulièrement vecteurs de stéréotypes, que ce soit par les profils mis en scène ou les rapports hommes-femmes qui sont présentés. Et dans ces programmes, le CSA dit que les femmes sont essentiellement valorisés au travers de leur apparence physique. Donc ça, on est au courant. Mais il y a d'autres études encore qui ont porté sur ce sujet.
Oui, justement, elles ne se contentent pas de dire que la télé, c'est très mal et très bête. Mais par exemple, sur les questions de genre, en France, il y a une étude du Haut Conseil à l'égalité sur l'état des lieux du sexisme hexagonal qui s'est justement intéressée à la façon de présenter les femmes dans ses productions. Donc le HCE s'est basé sur 3 programmes sur l'année 2019. Les Marseillais contre le reste du monde sur W9, Les Anges de la télé-réalité sur NRJ12 et Koh-Lanta sur TF1. Sans surprise, le bilan est assez accablant, mais c'est intéressant de voir quels sont les points qui sont problématiques. Par exemple, donc la sexualisation des candidates qui sont guidées par la recherche du male gaze, je cite, et non pas par l'affirmation de la puissance du corps des femmes. Il y a également une vision qui est jugée caricaturale de leur personnalité, marquée, tu l'as dit, par les stéréotypes avec des figures comme la bimbo, la partenaire idéale et ou la figure de la mère, donc la maman, est renvoyée à la notion de respectabilité ou de sagesse.
C'est tellement ça.
Donc globalement, les femmes sont souvent présentées comme stupides ou étant limitées intellectuellement avec des références au QI ou à la culture générale soi-disant inexistante de ces femmes. C'est d'ailleurs résumé dans un article de Libération qui explique que les programmes eux-mêmes semblent encourager le dénigrement et la compétition entre candidates en jouant sur une culture du clash. Par ailleurs, les métiers les plus représentés dans ces émissions sont ceux de danseuses et de serveuses. Les femmes sont très souvent nues ou en petite tenue. D'ailleurs, l'article de Mediapart dont on parlait tout à l'heure explique bien que la production encourage les candidates à être en maillot de bain. Voilà.
Et ce rapport, il expliquait aussi que parfois elles avaient des tenues qui n'étaient pas forcément adaptées, enfin, au sens où en fait elles avaient des nuisettes et des talons à un moment où on fait la cuisine ou ce genre de choses, et où apparemment c'est encouragé. C'est pas forcément, ça vient pas forcément des personnes elles-mêmes.
Non, c'est pas très réaliste.
Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, il y a un exemple très frappant qui résume tous ces clichés, mais qui est aux États-Unis, même si on a les mêmes en France. C'est un cas d'école qui est assez récent. Pour moi, c'est Too Hot to Handle, séduction haute tension en français, attention.
Très belle traduction.
Production Netflix récente où des célibataires soi-disant très portés sur le sexe ont l'interdiction de se toucher et de copuler pour créer encore plus de tension. Sinon, ils font perdre de l'argent au groupe. Donc, c'est bien un moralisateur.
This retreat is full of the sexiest people in the world.
Little case of this. What's happening?
I would rate myself a 10 out of 10.
Bring that here, reel it in.
This is literally heaven on earth.
Dans ce show, par exemple, les femmes sont effectivement toutes en maillot de bain avec des gros plans très male gaze sur leur corps, et où surtout les mecs vont commenter leur physique en mode bouché, du style j'aime son cul mais pas ses seins. Enfin, vraiment, ça m'a frappée. Et il y a le personnage de Chloé Veitch qui ne cesse de se présenter elle-même comme débile et qui en fait un trait de caractère, mais c'est totalement mis en scène par la prod. Et il y a le personnage de Francesca Farago qui est la nympho bitchy qui veut absolument baiser et que du coup tout le monde déteste. Et après, il y a aussi la figure présentée comme plus respectable de Rhonda Paul, qui est une mère célibataire, comme par hasard, une mère célibataire afro-américaine qui veut construire un couple solide. Donc vraiment, les archétypes qu'avait noté le HCE sur la télé-réalité française qu'on retrouve là aussi.
Oui, encore une belle manière de hiérarchiser les femmes. On reparlera de cette émission un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un bon exemple de la segmentation de l'espace et de la répartition des rôles de genre qui sont extrêmement binaires dans ce genre de production. D'ailleurs, les hommes doivent se distinguer par la force et la domination, les femmes par leur sexualisation. Après, dans la télé-réalité, il y a quand même des nuances, puisque certaines candidates compensent face aux hommes, par exemple en parlant et en criant fort pour s'imposer et ne pas se laisser marcher dessus. Par exemple, en France, la reine du genre, c'est Amélie Nethen qui a fait Secret Story et plus tard, Les Anges.
Arrête, franchement, tu m'énerves. Après, tu dis encore que c'est moi qui sais même pas voir mes torts. Si, moi, j'ai des torts, je le dis, ça va. Mais toi, non, tu les vois pas. Tu les vois parce que les autres te le disent, ça va.
Le problème, c'est aussi que le fait qu'elle parle fort est utilisé pour la décrédibiliser ou pour la moquer. Mais en tout cas, elle vaut le détour parce qu'elle n'a pas peur de hurler sur des hommes. Voilà, une fois n'est pas coutume.
Mais moi, elle m'a marquée personnellement. Alors, en ce qui concerne la représentation des corps, il y a là aussi un point récurrent qui est de montrer des corps très normés et dits valides. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de validisme et de grossophobie dans la télé-réalité. En particulier, je pense aux émissions de relooking, par exemple les reines du shopping de Christina Cordula, qui s'est fait épingler avec une émission, je cite avec de gros guillemets, spéciale ronde, spéciale belle avec des formes, voilà, et qui incitait les candidates à porter des vêtements fluide. Donc là, pareil, les gens ont été un peu outrés. Il y a aussi des initiatives comme celle de Karine Lemarchand qui a lancé l'émission Opération Renaissance sur des parcours de chirurgie de l'obésité dont le principe a fait polémique parce que jugé voyeur, culpabilisant et grossophobe. Par ailleurs, je crois que ça a fait un total flop en termes d'audience, donc c'était vraiment pas intelligent.
Faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester comme ça.
Voilà. Hein. Il faut faire quelque chose. Ouais. Allez, tu peux te changer.
Sinon, dans la télé-réalité en général, on voit quand même, c'est vrai, beaucoup de corps normés, blancs, minces, voire des corps que j'appelle augmentés, c'est-à-dire avec une forte musculature ou alors des abdos très dessinés, de la chirurgie, une extrême minceur, etc. Souvent, c'est quelque chose qui est corrélé à une notion de désirabilité. Donc voilà, moi, j'ai jamais vu autant de mecs musclés réunis, alors que c'est pas forcément représentatif, je pense.
Et je ne m'en plains pas, personnellement.
Oui, après, on peut toujours se rincer l'œil si c'est pour compenser le côté male gaze, côté
une
femme.
Une fois n'est pas coutume.
Dans les gros fils sexistes récurrents, encore quelque chose dans la mise en scène, c'est le catfight. Donc, on en a un peu parlé. La jalousie et la compétition pour les hommes qui rejouent ce thème de la bataille pour l'attention masculine. C'est le cas avec le Bachelor, par exemple, mais dans toutes les émissions, ça peut être un fil tissé par la mise en scène. Ou alors, c'est aussi les mecs qui jouent à qui a la plus grosse pour sortir avec une telle ou une autre, voire qui ont des comportements violents. En France, je pense à l'exemple du personnage de Moundir dans Koh-Lanta qui était entré dans une tente pour se battre avec des femmes et frapper des femmes.
Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas content ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Donc voilà, à l'époque, dans les années 2000, il n'y avait pas vraiment de censure des épisodes et il y avait des choses problématiques comme ça. Bon, aujourd'hui, il y a aussi d'autres choses problématiques, on va y revenir.
Oui, le montage était un peu aléatoire, disons. Il y a un autre exemple qu'on peut trouver parmi des télé-réalités qui sont vraiment collector aux États-Unis et qui sont déclinées dans toutes les villes. C'est la franchise The Real Housewives, qui est en fait presque un documentaire, où on suit la vie de femmes qui sont souvent femmes au foyer et richissimes dans leur quotidien. Il y a une dimension de reportage qui est assez savoureuse et un épisode d'ailleurs qui parle des violences intrafamiliales dans la saison qui se passe à Beverly Hills. Mais globalement, toute l'intrigue se base sur la guerre intestine que se mènent deux sœurs, en tout cas dans les premières saisons. Donc c'est Kyle Richards, la tante de Paris Hilton, et Kim Richards. Et la manière dont le groupe d'amis va se fissurer à cause de toutes les mesquineries qu'elles vont se faire les unes aux autres. C'est un peu déprimant.
Are you kidding me, Kim? Okay. Do you realize how insane you sound saying that? You don't want me that close to you?
I don't trust you.
Really?
What you did tonight was unforgivable.
I didn't do anything, Kim. You act like an insane person, okay? I'm so sick of your crap. Everybody is. Everybody's sick of what you put us through.
Oui, et les hommes sont présentés comme complètement passifs, ou alors s'il y a un problème avec eux, parce que eux aussi sont toxiques, c'est pas quelque chose qui est forcément abordé, ou alors d'une manière très superficielle. Il y a aussi une récurrence de certains thèmes centraux dans les scénarisations, donc les couples formés ou en devenir, les gens qui vont faire du sexe ensemble, ou qui font semblant, les conflits, les clashs, les cris, souvent entre meufs, mais pas que. Après, il y a les téléréalités thématiques, donc trouver l'amour, par exemple, l'amour est dans le pré, le télécrochet de Voice, relever un défi, Super Nanny. Oui, je me suis souvenue de cette émission qui date. Mais il y a surtout un modèle qui nous intéresse aujourd'hui, un genre à part entière, ce sont les émissions de dating sur le modèle de Love Island où il faut se faire la cour. Dit élégamment, souvent c'est pas exactement ça. On a regardé en tout cas avec Clémentine Love is Blind sur Netflix pendant le confinement.
Here you will choose someone to marry.
Hello.
Nice to hear from you.
Can't say see ya
without ever seeing.
If you're ready to find the love of your life,
game time.
The pods are now open.
Donc le pitch, c'est que des gens hétéros font des blind dates littéralement, c'est-à-dire que les candidats et candidates vont se parler à travers un mur sans se voir. Et quand les couples pensent s'être trouvés, l'homme en général demande la femme en mariage et ils se voient pour la première fois, se roulent une pelle, puis ils ont un mois pour apprendre à se connaître jusqu'à la cérémonie du mariage où ils doivent finalement dire oui ou non devant l'autel.
Plutôt non d'ailleurs.
Oui voilà, plutôt non, à l'issue d'une expérience donc qui inclut le fait de rencontrer les familles et de cohabiter dans des appartements témoins, mais où ils se font, je crois, livrer la nourriture. Enfin, c'est pas les vrais trucs de la domesticité. Donc voilà, évidemment, quand tu te mets avec un inconnu au bout d'un mois, c'est plutôt next. Enfin, ça marche pas trop. Voilà, c'est une télé-réalité dont l'éditorial reposait quand même sur des présupposés autour de la monogamie, du couple forcément hétérosexuel, du mythe du coup de foudre, mais sans se voir, donc avec l'idée d'une supériorité morale de la connexion émotionnelle sur la connexion physique. Donc c'était tout ça qui était contenu dans cette émission, et avec l'idée aussi que le vrai amour serait aveugle et n'aurait que faire des apparences. Un message très cousu de fil blanc et sous couvert de tolérance, la série ne questionnait pas vraiment les questions sociales ou les rapports de domination dans le couple, à mon avis. C'était pas du tout le but. Et c'est comme si dans la discussion, en fait, on ne s'attachait pas aussi à des marqueurs sociaux, c'est-à-dire que comme si, même sans se voir, on ne pouvait pas ressentir des marqueurs sociaux chez l'autre. Bref, c'est complètement aveugle à ça, pour le coup. Et sans parler du fait que l'expérience impliquait d'obliger quand même les gens à cohabiter, voire même à dormir dans le même lit. Donc ça pose des questions évidentes sur le consentement.
Oui, en plus de dire tout et n'importe quoi d'une émission à l'autre sur l'amour, ces émissions questionnent aussi la désirabilité et la mariabilité des femmes noires en créant une hiérarchie du dating. On peut penser au cas d'une femme qui est un peu mal aimée ou malchanceuse dans cette émission qui s'appelle Diamond. À l'inverse, il y a un couple qui est formé par Lauren Speed et Cameron Hamilton, qui est le couple préféré de tout le monde, le couple mixte parfait. Et on sait que donc, cette personne, Cameron, a déjà daté des femmes noires. On se demande d'ailleurs s'il n'est pas un peu fétichiste. Lauren, quant à elle, fait part de son engagement pour les luttes des personnes racisées, mais il y a quand même toute une scénarisation autour de l'opposition avec le père de Lauren qui ne voudrait pas que sa fille soit en couple avec un homme blanc. La mise en scène de leur relation se veut une espèce de promotion de la tolérance tout en étant insidieusement colorblind, en disant que l'amour est ainsi débarrassé des apparences et qu'il est donc plus pur. En tout cas, l'homme blanc reste présenté comme plus tolérant ou moins prise de tête sur le sujet, ce qui est bien normal puisqu'il ne subit pas toutes les discriminations en question. Donc depuis, c'est devenu le couple iconique du show, aussi parce que c'est le seul qui se soit marié et qui ait continué après l'émission. Il est donc présenté comme un couple mixte modèle dans lequel chacun respecte la culture de l'autre.
I feel so blessed to have you come into my life. I love you so much and I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me?
Oh my god, yes.
Yes, Cameron.
Sachant que l'émission a aussi été critiquée parce qu'il n'y avait qu'un seul homme noir dans le casting masculin, alors qu'il y avait 7 femmes noires. Donc peut-être que l'idée implicite est que les femmes noires doivent se marier à un homme blanc pour être socialement valorisées. Je ne sais pas. En tout cas, tout ça est assez opaque.
Ouais, ça pose plein de questions. Des représentations moralisatrices et normatives, il y en a aussi dans La Villa des Cœurs Brisés en France et dans Too Hot to Handle, donc le show dont on a déjà parlé sur Netflix, parce que tous deux prétendent améliorer les candidats et les candidates. Donc c'est vraiment selon un mode capitaliste sur le travail sur soi, avec une mauvaise interprétation du self-care et du self-help, notamment en pénalisant tout acte sexuel. Donc au lieu de valoriser l'épanouissement, par exemple, on va plutôt se flageller et être flagellé collectivement si, par exemple, on cède aux tentations de la sexualité. Enfin, c'est quand même un message what the fuck quand tu regardes ça adolescent.
Oui, c'est l'interdiction et l'abstention assez régressive, en fait.
C'est ça, mais pas pour le bien-être, effectivement, juste pour pas faire perdre d'argent à ton équipe parce que c'est mal, quoi, en gros. Il y a aussi des ateliers très genrés dans Too Hot to Handle. Par exemple, les mecs doivent se couvrir de boue et entonner des chants guerriers et les femmes doivent dessiner des vagins. Bon, voilà. Et selon un article de Slate, c'est même devenu une nouvelle école de l'amour qui nous apprend des codes bien normés et qui nous aide pas dans nos représentations du romantisme et de l'amour.
C'est aussi le cas dans Marié au premier regard, qui est diffusé sur M6, qui est une émission où les candidats se rencontrent à leur mariage après avoir été matchés par de pseudo-experts qui leur ont fait passer des tests en leur demandant tout un tas de critères et qui leur garantiraient qu'ils seraient compatibles grâce à un algorithme. Donc cette croyance, en tout cas cette manière de s'en remettre à la technologie pour résoudre un soi-disant mystère amoureux, nous laisse un peu pantoise. Ensuite, les candidats et les candidates voient s'ils disent oui au mariage, puis ils passent la nuit ensemble et partent en voyage de noces. Au bout de quelques semaines, ils vont faire un bilan pour décider s'ils restent ensemble ou s'ils divorcent. Et donc, il y a vraiment cette idée de placer l'amour sous le signe de la rentabilité et de l'efficacité, comme sur certaines applications de rencontres, avec la psychologisation du couple et une caution pseudo-scientifique, avec des taux de compatibilité qui quantifient la potentielle entente.
Oui, et c'est présenté par la psychologue Estelle Dossin et le docteur en psychologie Pascal de Sutter. Et ça aussi, en fait, ça invisibilise les questions sociales dans l'amour, les rapports de domination, et plus grave encore, ça fait quand même vraiment mariage arrangé avec la pression de devoir consommer. Donc là, ça va
pas. Bienvenue au 19e siècle.
Et là encore, la question du consentement se pose, puisque l'émission a été accusée d'encourager les candidats à se rapprocher d'une manière très limite. Notre consoeur Nora Boisouni y a consacré un article toujours sur Slate. Elle explique que la voix off va commenter tous les rapprochements physiques et s'offusquer quand les femmes font preuve de réserve ou n'ont pas envie de dormir dans le même lit qu'un parfait inconnu dès le premier soir. On les comprend.
Scandale.
Voilà. Et parfois, la prod n'a même pas prévu de couchage séparé pour la première nuit, donc problématique. Et Mélodie, par exemple, une candidate de 2020, en a fait les frais. La voix off n'a fait que se concentrer sur elle en l'incitant à se décoincer, avec de gros guillemets. C'est devenu l'intrigue principale avec des commentaires du style « elle n'aime pas les hommes », alors que son partenaire était présenté comme sincère et ça a véhiculé l'idée que le sexe est un dû quand le mec se montre gentil. Donc ça, c'est vraiment mais catastrophique comme message à donner aux gens qui regardent ce show. Et ça lui a même valu d'être harcelée sur les réseaux sociaux puisque le public jugeait qu'elle ne faisait pas assez d'efforts pour tomber amoureuse ou pour se rapprocher de l'autre candidat.
Ça me fait énormément plaisir que Rémi me propose qu'on aille faire la bouée. Je suis passionnée de sport de glisse. J'adore ça et forcément, il était dans le mille. Donc là, ça me touche quand même et je me dis qu'il assure.
Ah, c'est pour ça, faut bien que tu manges. Faut bien qu'on reste accroché à la bouée.
Rémi montre qu'il connaît déjà un petit peu les goûts de sa nouvelle épouse en sachant qu'elle aime les émotions fortes, qu'elle aime quelque chose de fun, d'agréable, de drôle, d'amusant. Bonjour. Il organise tout cela. Et ça peut vraiment les rapprocher parce que quand on organise une activité où il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de la légèreté et en même temps il y a des émotions, eh bien, c'est en général très favorable à un rapprochement physique entre deux personnes qui ont déjà un début d'attirance entre elles.
Oui, c'est vraiment un double standard dans la manière dont les attentes sont très genrées. Et alors, pour parler des questions raciales, la télé-réalité, sans surprise, lave plus blanc que blanc, et surtout en France. Alors, il y a bien eu quelques tentatives de casting différents, plutôt aux États-Unis, mais ça reste assez marginal, ou bien les questions raciales sont cantonnées à part, comme c'est le cas dans Real Housewives, qui a une saison à part consacrée aux riches afro-américaines d'Atlanta. Il faut quand même savoir qu'il a fallu attendre 2021, donc cette année, pour qu'il y ait un premier bachelor noir, c'est Matt James qui a donc un peu la pression cette année, alors qu'en 2012, l'émission avait déjà été poursuivie aux États-Unis par la justice pour discrimination raciste, mais l'affaire avait été ensuite abandonnée. L'ex-bachelorette Rachel Lindsay, qui a d'abord été candidate du Bachelor, puis a été la première femme noire à être la figure principale de ce spin-off féminin, donc Bachelorette, en 2017, a critiqué les producteurs de l'émission pour la manière dont elle avait été présentée, selon le stéréotype raciste bien connu de la Angry Black Woman, donc de la femme noire en colère, dans son dernier épisode. Et dans une interview, elle a dit qu'il fallait plus de diversité avec les leads, donc les rôles-titres, qui ne soient pas tous blancs. Elle a également dit que les candidats non blancs ne duraient jamais dans les saisons et que c'était un vrai problème. Là aussi, encore une fois, c'est souvent comme au cinéma, c'est-à-dire que le personnage noir meurt tout de suite. Là, il se fait simplement évincer par la production ou par le public. À titre d'exemple, il y a une photo réunissant tous les bachelors et bachelorettes américains à travers les années où l'on voit très bien qu'ils sont quasiment tous blancs.
Ouais, on voit que depuis The Real World, dans les années 90, on n'a pas fait énormément de progrès. En France, c'est encore plus catastrophique puisqu'il y a eu quand même beaucoup de cas de racisme dans des émissions, notamment des émissions de télécrochet. Par exemple, dans The Voice, Iseult en est sorti en évoquant la grossophobie et le racisme ambiant. Il y a aussi eu l'affaire Menel, donc du nom de la chanteuse candidate de The Voice en 2018, qui a été harcelée après la diffusion de son audition. Donc en fait, certains de ses tweets avaient été exhumés pour la discréditer de gens sur Twitter, enfin globalement d'extrême droite, qui ont nourri une vague d'attaques islamophobes et racistes et qui critiquaient en fait le fait qu'elle porte le turban et qu'elle ait choisi de chanter le titre Alléluia en arabe. Donc c'était quand même une vaste opération de harcèlement.
Quand mon audition à The Voice, elle a été diffusée en février, mais direct après, j'ai vu des captures d'écran de mon compte personnel. Et je me dis, mais pourquoi en fait on a allé fouiller mon compte et pas celui de tous les autres? Enfin, comme s'il n'y avait que moi à qui ça intéressait de savoir ce que j'avais pu dire dans ma vie personnelle. Et je pense sincèrement que c'est parce que c'était moi, parce qu'à la télé, ils ont vu une fille qui arrive, qui chante en arabe et qui a un turban, qu'on est allé fouiller dans mon compte. Autrement, on ne l'aurait pas fait.
On se souvient aussi d'un moment dans un autre télécrochet, La Nouvelle Star, en 2016, avec un cas de racisme anti-asiatique lors d'une audition du candidat d'origine coréenne, Du Kwan. Donc là, le jury, c'était horrible. Il s'est moqué de son accent. Il lui a demandé de changer de prénom parce que, soi-disant, son prénom était trop difficile à prononcer. Ils lui ont demandé s'il allait chanter de la K-pop. Enfin, c'est un festival de commentaires racistes, donc il y a quand même beaucoup à faire encore.
안녕하세요. 저는 김덕환이라고 하고요. 저는 한국에서 왔습니다.
Pardon, pardon. On recommence tout. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Dukan Kim.
Dukan Kim.
Dukan Kim.
Dukan Kim.
On va t'appeler Luc.
Oui, et surtout, ces agressions peuvent venir à la fois du public s'il est impliqué, de la production ou des candidats et des candidates entre eux, entre elles. Donc voilà, les sources de violence sont quand même multiples.
Ouais, le système s'auto-nourrit, quoi.
Alors, ces émissions, effectivement, produisent un certain nombre de discours normatifs et moraux. Faut-il, pour autant, à l'inverse, porter un jugement moral sur elles? On peut effectivement pointer ce qu'il y a de problématique et de violent, mais la télé-réalité, c'est un poncif et aussi souvent critiqué dans d'autres termes qui sont beaucoup plus douteux. À ce sujet, la sociologue des médias Nathalie Nadeau-Albertini, qui est l'autrice du livre « 12 ans de télé-réalité au-delà des critiques morales », est revenue sur, justement, les critiques essuyées par la télé-réalité dans une interview à France Info et notamment sur l'époque du Loft. Elle dit « Les critiques sont allées très loin. Elles ont comparé le Loft à un système totalitaire. De nombreux médias et intellectuels ont utilisé le vocabulaire de la santé mentale mental pour parler du loft. Il dénonçait le voyeurisme, le sadisme, l'exhibitionnisme, la manipulation. Beaucoup y ont vu l'avènement d'une forme de déchéance humaine et sociétale. Selon elle, ses critiques s'inscrivent dans l'histoire de la méfiance qu'ont toujours eu les élites envers les médias populaires depuis la révolution industrielle. Pour les commentateurs, c'est une façon de se distinguer socialement.
C'est ça, et en fait, les programmes populaires sont jugés nocifs par les élites depuis qu'ils existent. Ça a été aussi le cas pour des dessins animés ou des comics. Et en fait, ce discours classiste contient l'idée que les spectateurs et les spectatrices seraient incapables de faire la part des choses. Et ce sont les mêmes discours qui vont, je pense, mépriser la chirurgie esthétique, les discussions intimes, le langage, les vêtements des candidats. Toutes ces choses-là. Et la sociologue Nathalie Nadeau-Albertini explique que les shows qui ont suivi le loft en France ont essayé justement de tenter des choses pour être jugés plus positivement et pour chercher une forme d'acceptabilité morale, par exemple en mettant au centre de l'intrigue des aventures, comme dans Koh-Lanta, ou en donnant de l'argent à des associations pour donner le sentiment de faire quelque chose, d'être utile.
Elle dit aussi que dans Secret Story, l'émission va promouvoir des secrets qui se veulent être des messages de tolérance et questionner l'hétéronormativité. Alors on peut quand même s'interroger sur les intentions des producteurs et des effets réels, bien sûr, mais par exemple, le candidat qui s'appelait Erwan dans la saison 1, qui était un homme trans, a dit par la suite que c'était une occasion pour lui de faire passer un message, mais aussi de gagner des sous pour simplement mieux vivre sa transition. Et ça, c'était en 2007, donc c'est pas mal. Et au niveau de la question de la visibilité LGBT+, dans ces émissions qui restent quand même réduites à peau de chagrin, quand elle n'est pas simplement cloisonnée dans un genre à part comme l'émission Queer Eye, dont on a déjà parlé ici dans un épisode court, sans surprise, la majorité des productions reste totalement hétérocentré, et d'ailleurs c'est vraiment le fond de commerce aussi de ces émissions-là, de perpétuer l'hétérosexualité comme modèle politique. Sinon, elles mettent de temps en temps en scène le gay fantasque de service pour faire couleur locale, par exemple Stevie Boulet, ce qui est un peu le syndrome de la schtroumpfette, voilà, appliqué aux personnes LGBT+. Sachez quand même qu'en Allemagne, en ce moment, il y a une émission de dating lesbienne qu'on attend avec impatience, qui s'appelle Princesse Charming.
Irina Schlauch ist die erste Frau und damit das Gesicht der neuen lesbischen TV Now Dating Show Princess Charming.
Et c'est intéressant parce que cette même sociologue dont on parlait, elle-même, elle a interviewé en fait des téléspectateurs et téléspectatrices et elle rappelle à travers leurs témoignages la fonction du divertissement. Par exemple, ces témoins parlent d'une parenthèse dans leur quotidien, un moment de répit après le travail où on se vide la tête, et elle dit que finalement les ressorts de la télé-réalité sont les mêmes que ceux de tous les feuilletons et qu'il y a un plaisir coupable assez partagé à regarder ces programmes, mais que ce qui intéresse au fond, ce sont les histoires d'amour, d'amitié, d'inimitié, de famille, etc. Après, le truc un peu flippant qu'elle explique, c'est que peut-être que ça excite certains trucs chelous chez les gens avec cette idée de moralisation. Donc, par exemple, elle dit que les qualités recherchées sont l'honnêteté, l'authenticité. Donc, on ne sait pas trop comment on définit ça. Et les personnages perçus comme manipulateurs ou ambitieux vont être condamnés par le public. Donc ça, c'est ce que dit la sociologue. Mais je pense que c'est aussi du fait des productions qui instrumentalisent les candidats en leur faisant incarner certaines valeurs ou certains traits de personnalité sans nuance et même contre leur consentement à elles et eux.
Oui, c'est comme si les personnages étaient écrits d'avance, en fait, quelles que soient les personnes qui les incarnent. Une autre critique de la part des commentateurs et commentatrices porte souvent sur l'oisiveté supposée, en tout cas des personnes qui participent à ces émissions, et le fait qu'ils et elles deviennent connus, je cite, en ne faisant rien. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'au 19e siècle, c'était plutôt la critique qu'on faisait à l'encontre de la bourgeoisie. Donc, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Et donc, en ce moment, il y a encore ce genre de regard méprisant pour des personnes qui n'auraient, je cite, pas de talent. Parallèlement, la démarche de passer dans une télé-réalité s'est aussi professionnalisée au fil des années. D'ailleurs, les personnes qui signent des contrats utilisent aujourd'hui les émissions parfois comme un tremplin pour pouvoir lancer une marque, pour devenir influenceur ou influenceuse quand ce n'est pas déjà le cas, ou pour se créer un personnage qui sera ensuite un moteur de carrière. Donc, tout ça est, en tout cas aujourd'hui, très lié aux réseaux sociaux où l'on va pouvoir suivre les candidats et les candidates ensuite après l'émission.
Oui, et aujourd'hui, pour continuer un peu l'histoire des critiques portées contre la télé-réalité. On peut dire que celles d'aujourd'hui vont peut-être plus porter sur les accusations de sexisme et de harcèlement, et c'est bien légitime. Ça pose aussi la question des solutions. Donc, il y a eu, par exemple, des propositions pour créer des chartes éthiques pour réguler la télé-réalité. C'est une idée qui est défendue par le Haut Conseil à l'égalité, par exemple. L'idée de faire signer des chartes d'engagement aux chaînes et aussi de renforcer le rôle du CSA. CSA qui avait d'ailleurs déjà formulé des avertissements à des chaînes en raison de l'image dégradante donnée des femmes, notamment. Par exemple, il y a eu un exemple terrible en 2010 dans l'émission Dilemme sur le modèle du loft avec des candidats enfermés dans une maison où une femme avait été promenée en laisse et avait mangé des croquettes dans une gamelle pour faire gagner de l'argent à son équipe. Donc, comme quoi le CSA a quand même du pain sur la planche et je pense qu'effectivement, renforcer son rôle ne serait pas de trop.
Surtout, il faut savoir si les recommandations du CSA sont suivies ou
exactement.
Pas. En fait. Après, il y a aussi la question des conditions de tournage qui est assez essentielle.
Oui, il y a eu un témoignage d'une ancienne candidate de Secret Story en 2011, c'est Morgane Anselme. Donc elle explique que les candidats ne savaient pas l'heure, c'était interdit de le savoir. Il n'y avait pas de produit pour faire le ménage. On ne pouvait pas changer les draps.
Ah.
Pas le droit de demander de quoi lire ou écrire, pas d'actualité, pas de jeu de cartes pour relâcher la pression. Des restrictions sur les cigarettes pour les rendre à cran, apparemment. Par contre, elle a expliqué que en tout cas, dans Secret Story, il n'y avait pas eu beaucoup d'alcool, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais elle a dit que, en tout cas, tout cela avait des conséquences sur la santé mentale, qu'on leur proposait vaguement un suivi à la sortie, mais qu'en fait, c'était totalement artificiel et que c'était pas vraiment suivi des faits et que les gens étaient laissés livrés à eux-mêmes.
En fait, plus ça avançait dans le temps, plus je me rendais compte que, en fait, les conditions de vie étaient quand même très bizarres et qu'on nous poussait vraiment dans nos retranchements physiques, psychologique, on n'avait pas le droit d'avoir l'heure. On ne sait pas à quelle heure il est quand on se couche, quand on se lève, on ne sait pas combien de temps on dort. Et sachant qu'on n'avait pas l'heure, on avait quand même un four, donc on s'est dit, mais en fait, si on arrive à savoir l'heure qu'il est, on va régler l'heure du four. Dans la nuit, ils sont revenus dérégler l'heure parce qu'ils se sont rendus compte en fait qu'on avait réussi à savoir l'heure qu'il était.
Oui, justement, sur la question de la santé mentale, il y a eu un épisode assez dramatique récemment autour de Terrace House, qui est donc une télé-réalité japonaise qui se passe dans une maison, qui connaît pas mal de succès à l'étranger parce qu'elle donne un aperçu de la vie et des mœurs au Japon, c'est-à-dire très peu de conflits et des mois avant le moindre baiser, donc c'est assez dépaysant. Mais dans la dernière saison, la catcheuse qui était dans la maison, Anna Kimura, a fini par se suicider après avoir été harcelée par des fans de la série. Elle a été à la fois victime de racisme car elle était métisse, et aussi des producteurs qui étaient très intrusifs et qui l'avaient encouragé à mettre en scène une fausse dispute qu'il a montrée dans l'émission comme étant la méchante. Et donc, cette affaire, évidemment, a causé l'émoi de beaucoup de personnes et de fans et a aussi mis à jour les rouages de cette émission qui était en réalité très mise en scène, comme elles le sont très souvent.
C'est ça. Et en fait, les productions vont prendre les gens et vont leur construire une personnalité, mais sans leur demander leur avis. C'est ça qui est fou. Et les gens découvrent ça après. C'est atroce. La question des suicides et de la santé mentale est une question très grave qui revient à ce sujet. Donc, il y a des psys apparemment impliqués dans les productions, mais font-ils vraiment leur travail ou sont-ils vraiment sollicités ou est-ce que le suivi psychologique est vraiment assuré par la suite?
Donc, est-ce que c'est juste une caution?
En tout cas, au Royaume-Uni, le Sun a répertorié 38 cas de suicides d'anciens candidats de télé-réalité.
C'est énorme.
C'est énorme. En France, on se souvient de François-Xavier Loridan, dit FX de Secret Story, qui s'est donné la mort le 9 août 2011.
Alors, on va écouter le témoignage de Paul Sansfourche, qui est l'auteur du livre Sexisme Story, qui est sorti aux éditions du Seuil. Avant Nabila, il y a eu Loana Petrucciani dans Love Story en 2001. Et dans cette enquête, donc, le journaliste Paul Sansfourche est allé à sa rencontre. Il l'a interviewé, puis elle a cessé de lui répondre. En tout cas, il est très transparent sur ses rapports avec elle dans cette enquête. Et donc, il tente, 20 ans plus tard, de déconstruire ce mythe. Donc, ce livre fait partie des essais un peu intello qui sortent en ce moment et qui essaient de porter un regard intelligent sur des objets qui sont souvent peu considérés. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, M6 a acheté le concept à Endemol, qu'il y a bien eu beaucoup de montages et des scénaristes. Ça, c'est ce qu'on apprend en lisant le livre. Que Loana Petrucciani Trucciani a été victime de violences dans sa jeunesse de la part de son père et plus tard de la part de divers conjoints. Elle a aussi souffert d'addictions et elle a cumulé les stigmates de la bimbo, la mauvaise mère et aussi de la femme déchue. Elle est devenue à travers le loft un corps public, donc un corps politique. Elle a été moquée, elle a été harcelée et elle véhicule aussi le stéréotype de la cagole qui a donc annoncé quelques années plus tard Nabila Benatia. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'aux États-Unis aussi, on utilise des personnes qui viennent du Sud pour donner l'idée qu'ils sont bêtes ou paresseux dans des émissions comme Here Comes Honey Boo Boo ou bien Duck Dynasty. Voilà, on écoute Paul Sanfourche nous parler de son livre et de Loana Petrucciani.
Moi, je trouve que c'est génial, justement, les sujets qui sont peu considérés, qui sont déconsidérés même au niveau culturel, parce que ça te laisse les coups des franches, en fait, pour l'investiguer, parce que généralement, ça a été complètement délaissé. C'est souvent le cas de la pop culture, de la télévision aussi, et on la regarde rarement sous le prisme de l'analyse et de l'analyse sociétale. Et en fait, c'est un sujet absolument génial, puisque c'est quelque chose qui nous a tous parlé, très souvent. Si on prend Loft, à l'époque, c'était, je crois... les 15-24, il y avait quasiment 80% de la classe d'âge qui regardait l'émission, donc c'est monumental. Je pense que, en matière de télé-réalité, on a pu aborder la question des contrats, c'est un thème qui a déjà été en partie investigué. Ce qui me paraissait plus neuf, c'était de s'intéresser aussi aux conditions de production de ces programmes-là. Le Loft, il y a eu une quantité de littérature, de commentaires qui est sortie à l'époque, pour dire c'est terrible ou alors c'est génial, enfin voilà. Mais il n'y avait absolument rien sur comment ont été produites ces images, par qui, quelles étaient les méthodes de travail. Donc ça m'a vraiment passionné. Et je pense que j'ai pas eu l'impression que ça avait été beaucoup fait à cette époque-là. Et ce qui est bien, c'est que 20 ans après, les acteurs sont assez désireux finalement d'en parler parce que c'est vraiment une époque pour eux et pour elles charnière. Et il n'y avait pas de tabou à aborder la manière dont ils travaillaient à l'époque. Et pour moi, c'est extrêmement significatif. C'est-à-dire que quand la production dit, dans des molles, dit à l'époque, ah bah on n'a pas pu contrôler la diffusion de certaines images, notamment de l'intimité de Loana, en réalité, quand on creuse un peu, on comprend que c'est pas aussi simple que ça, que certes, il y avait aussi une impréparation un peu technologique, mais qu'en réalité, il y avait aussi l'envie de rendre un programme extrêmement attrayant, de diffuser certaines images. Et c'était ça qui était passionnant, c'était de pouvoir avoir ce récit-là des acteurs en coulisses, de comprendre comment en fait ce programme s'est constitué par les gens qui l'ont fait et de voir aussi du coup tout le discours qui a été présenté derrière, c'est-à-dire que souvent la production se dédouane en disant voilà, on a été dépassé, ça a été un phénomène incroyable. Bon, en réalité, il y avait déjà plusieurs expériences de Big Brother en Europe avant que ça débarque en France. Les logiques des programmes étaient assez similaires. Le premier programme Big Brother en Hollande, son succès se fait aussi sur la diffusion évocatrice d'un rapport sexuel entre un homme et une femme. Exactement de la même manière qu'en France. Donc dire, voilà, ah non, on n'a pas pu, on ne savait pas qu'il pourrait y avoir ces images qui passaient à l'antenne, ah là là, on a été dépassé, on peut légitimement en douter. Donc c'était ce travail-là aussi qui me paraissait hyper important de présenter. Derrière la figure de Loana, il y a la figure de la bimbo. Et les bimbos, moi j'avais absolument aucune connaissance en bimbo avant de travailler sur ce livre, mais c'est vrai qu'elles ont quelque chose de fascinant et d'hyper intéressant dans la performance de genre en fait. Déjà parce qu'elles s'inscrivent dans les années 90, on a eu, c'est la décennie vraiment des top modèles, hein. On a les Claudia Schiffer, les Sydney Crawford, enfin voilà, ces espèces de superstars de l'époque, qui sont un peu l'incarnation finalement de la femme parfaite et évidemment de tout le male gaze qui se cache derrière. Et les bimbos, c'est une sorte d'étape supérieure, quoi. C'est un peu, ok, on a ces modèles-là des féminités qui sont tout puissants, et nous, on va pousser, et ces bimbos-là, elles vont pousser le curseur encore plus loin dans l'hyperféminité, à la fois par la minceur, la blondeur, souvent des opérations de la poitrine, pour avoir des poitrines extrêmement opulentes. Et en ça, on pourrait dire, ah bah voilà, ce sont vraiment les alliés absolus du patriarcat, elles ont intégré toute la soumission, elles l'ont imposée à leur corps. C'est une manière de voir les choses, mais aussi on peut se dire, quelque part, elles ont poussé les curseurs, elles se sont réappropriées ces codes-là, elles ont construit leur corps, et elles en ont fait des objets de puissance médiatique et aussi financière, hein, in fine. Donc ça, c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'empuissancement, et ça doit nous questionner sur justement ce rapport au corps-là, et est-ce que réellement elles sont dans la soumission, ou est-ce qu'elles sont finalement dans quelque chose de beaucoup plus subversif. Et surtout, à mon sens, elles révèlent par ça, toute l'hypocrisie en fait qui pèse sur les corps des femmes, toutes les injonctions qui pèsent, c'est-à-dire qu'il faut être sexy mais pas trop. Les bimbos, elles en voient un peu tout pêtre, elles disent bah ok, mais non, mais nous on sera comme ça et puis c'est tout et on sera hyper sexy et c'est quoi le problème quoi. Donc elles sont très intéressantes et dans Loana il y a toutes ces valeurs là qui sont, je dirais, en filigrane. Et ensuite effectivement il y a la notion de classe. Loana c'est une bimbo mais c'est aussi un peu ce qu'on pourrait appeler le personnage de la cagole en télé-réalité. Elle vient du sud, elle vient de Nice, et elle est aussi stigmatisée pour ça. Et elle va devenir aussi un objet de moquerie pour ça. Il y a cette condescendance de classe, et en plus on pourrait dire condescendance parisienne et médiatique, à l'égard d'une petite fille du sud, d'un milieu populaire. Et c'est ce qui dure en fait depuis 20 ans. Quand moi j'ai commencé à travailler sur ce livre, plein de fois je me suis heurté à l'incompréhension des gens. L'incompréhension, le dénigrement, c'est-à-dire tout de suite on disait « mais elle est conne ». En fait, qu'est-ce que t'en sais ? Enfin, tu la connais, tu l'as déjà rencontrée, t'as déjà... Et donc voilà, il y avait tous ces présupposés, en fait, qui étaient là très présents, et qui, à mon avis, révèlent tout un tas de choses sur nous-mêmes et sur notre société.
Alors, pour parler de notre expérience, est-ce que toi, Pauline, tu es friande, bonne cliente de la télé-réalité ?
Bah, en tout cas, elle m'a beaucoup accompagnée. Adolescente, j'ai tout regardé. Le Loft, Nice People, Secret Story.
Wow.
J'ai vécu avec fascination les aventures de Loana. Et je regardais ça en rentrant du collège ou en vacances. Et mon père, d'ailleurs, était outré quand le Loft est sorti. Il ne voulait absolument pas qu'on regarde. Mais on l'a vu le faire lui-même en cachette, le regarder lui-même en cachette.
Papa Verduzzi.
Ouais, et ça résume bien les contradictions des gens autour de cet objet culturel. Moi, j'ai été biberonnée assez chaud. J'ai pas l'impression que ça m'ait totalement retourné le cerveau, même si ça a imprimé en moi des représentations parfois problématiques sur le genre et la sexualité, je n'en doute pas. Mais j'ai l'impression que ça me rendait parfois aussi empathique parce que j'aimais bien les histoires d'amour, les réconciliations, etc. Et j'étais aussi impressionnée par les filles comme Amélie qui criaient sur les garçons. Et voilà, une fois, ma prof de français m'avait chopée avec un magazine People en me disant « mais comment tu peux lire ça ?» Comme si je pouvais pas à la fois aimer lire de la littérature et des magazines People. Et donc moi, en fait, ce mépris-là, il m'a toujours posé problème. Et voilà, je pense qu'effectivement, il faut donner quelques clés de lecture pour accompagner un visionnage de télé-réalité si on est ado. Mais en même temps, c'est aussi un effet miroir grossissant de la société. Il y a des choses intéressantes à y trouver. J'ai recommencé à regarder de la télé-réalité avec Love is Blind et Too Hot to Handle. Et là, par contre, je me suis quand même pris une claque parce que certains discours dénigrants sur les femmes et sur leur corps que j'ai entendus dans Too Hot to Handle m'ont fait me dire que quand même, ça passait pas trop. Et si moi, j'avais entendu ça à 13-14 ans, ça avait pas dû me faire du bien. Mais en tout cas, il y a un mélange de fascination-répulsion. Et par contre, moi, personnellement, j'ai jamais considéré que c'était la lie de l'humanité. Moi, j'y ai aussi appris des choses. Et toi ?
C'est vrai que là, la pandémie a quand même vraiment profité à la télé-réalité ces derniers temps. Moi-même, je me suis mise à regarder Koh-Lanta et Top Chef, notamment pour préparer cet épisode. Comme toi, j'ai un peu grandi avec ces émissions, mais qui m'étaient présentées comme étant vraiment le repoussoir du bon goût, aussi par mes parents, et comme voilà un objet très impur, puisque étant à la marge de la culture et du divertissement de masse. Ce que je peux dire de mon visionnage récent de Koh-Lanta, c'est que j'ai trouvé que c'était une saison assez misogyne puisqu'il y avait un groupe de mecs entre couilles, donc dans l'équipe rouge. Et heureusement, il y a quand même deux filles qui se sont alliées, quoi qu'on en pense, et aussi un homme gay qui a émergé. Et non, ce n'est pas un homme efféminé, hein, voilà, merci de dire la vérité. C'est Vincent, mais il a malheureusement été éliminé. Donc la France est en deuil. D'ailleurs, je vous renvoie pour la dernière saison à un article de notre consoeur Anne-Laure Pinault dans Télérama qui parlait aussi cette fois-là de guerre des sexes. Dans Top Chef, que je suis toujours en train de regarder, je ris à chaque fois qu'on parle d'assiettes féminines ou masculines et il y a toujours très très peu de femmes chefs invitées. Donc voilà, ça ne change pas. Et moi, personnellement, j'ai une niche préférée qui est les téléréalités de décoration et de construction. Donc comme Tiny Houses ou Les Clés de chez moi, avec deux jumeaux qui viennent refaire votre maison. Il y a aussi Selling Sunset avec le catfight immobilier à Los Angeles. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit bien comment ces séries mettent en scène la binarité des sexes et aussi la charge mentale de l'aménagement domestique et intérieur. Voilà, en gros, c'est toujours les femmes qui s'occupent de tout.
Le moment
pop
culture.
Pop culture.
Alors, dans la pop culture, on se souvient de l'inoubliable sketch tournée-ménage des inconnus.
Voilà, bonjour, merci Evelyne. Et oui, on se retrouve sur le plateau de tournée-ménage avec notre jeu favori, puisqu'il a réuni des tas de couples déjà. Et puis, nos nouveaux candidats. On va commencer par les garçons. C'est pas très galant, mais ça fait rien. Alors d'abord, à ma droite, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Fabienne.
Et puis, à ma gauche, Mohamed.
Et plus récemment, on peut penser à la série américaine Unreal, qui montre les dessous peu ragoûtants d'une émission de télé-réalité de dating où les producteurs et productrices sont très intrusifs, où on leur met la pression pour créer du drame. Et donc, on suit une productrice assez jeune qui a fait un burn-out à cause de cette émission, mais qui y retourne quand même. Il faut savoir que cette série est écrite par une ex-productrice du Bachelor, justement, et qu'apparemment, il y aurait eu autant de drames à l'écran que dans la fabrication de la série, ce qui est d'autant plus croustillant.
Okay, here we go. You get cash bonuses for nudity. 911 calls. Get that out of my face. Cat fight. We are selling true love here.
Donc moi, je pensais au film italien Les Merveilles de Alice Rohrwacher, qu'on aime beaucoup ici, qui se passe dans une petite ville italienne rurale en Ombrie et qui accueille une émission old school régionale qui vient faire un tournage dans cette région. Ça s'appelle Le Village des Merveilles et c'est une sorte de concours pour découvrir des talents avec Monica Bellucci en présentatrice aux longs cheveux blancs. Elle a les cheveux
meilleur
blancs.
Casting, on dirait une sirène.
C'est magnifique. Tout le monde veut participer à cette émission dans le coin pour sortir de son quotidien et c'est notamment le cas de la fille d'une famille d'apiculteurs très isolée où les enfants sont déscolarisés. Et cette jeune fille espère ainsi rêver et peut-être s'extraire de sa condition. En tout cas, c'était un film très poétique.
Ouais, très beau film.
À la sélection, al paese delle meraviglie.
Ecco, ti manca questa stronzata.
Non ti ha chiesto di andare, non so, in discoteca. Ti ha chiesto di partecipare a un concorso?
Alors, il y a un autre film qui était, lui, plus prophétique et qui a annoncé toute la télé-réalité d'aujourd'hui. C'est le Truman Show qu'on connaît avec Jim Carrey, qui est un métafilm réflexif sur un homme qui ne sait pas qu'il a grandi sous les yeux du public américain et des caméras. Ça a même donné le nom à un trouble médical psychiatrique qui s'appelle aujourd'hui le syndrome Truman Show.
Dans les autres questions qu'on se pose aujourd'hui, il y aurait celle-ci. Que deviennent les stars de télé-réalité qu'on a croisées? Certaines ont percé, par exemple Julien Doré, Olivia Ruiz, One Direction, Jennifer Iselt dans la chanson. Sinon, pour parler un petit peu de la suite des carrières, on pense à Magali Berda, qui est l'agente des stars de la télé-réalité et qui leur donne une deuxième vie, en quelque sorte. D'ailleurs, le mot influenceur pour qualifier un candidat de télé-réalité s'est imposé et c'est elle qui l'a inventé à coup de post-sponsor.
Oui, on vous conseille son portrait dans Vanity Fair.
Qu'est-ce que tu kiffes?
Qu'est-ce que t'écoutes?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis?
Les recommandations culturelles.
De quoi de neuf?
Alors, cette semaine, tu as une bande dessinée.
Alors oui, cette semaine, j'aimerais recommander une bande dessinée qui s'appelle Mamaz, de l'autrice Lillison. C'est chez Casterman et c'est l'histoire donc de la maternité de l'autrice qui va déconstruire l'idée d'un instinct maternel en revenant un peu sur l'histoire des représentations de la maternité et qui va tordre le cou à l'idée que les femmes seraient programmées pour désirer avoir des enfants. C'est très bien fait et c'est très drôle. Et toi, Clémentine ?
Alors moi, c'est Stexisme de Nora Boisouni. D'ailleurs, on parlait d'elle tout à l'heure. C'est aux éditions Nourriture Fu. C'est un essai qui explique comment l'idéologie patriarcale, main dans la main avec la publicité et le marketing, va construire nos habitudes culinaires et alimentaires, par exemple en nous poussant à consommer et à manger de manière différenciée, à se priver pour les femmes et à manger plus de protéines qu'il n'en faut pour les hommes. Et il est même question de yaourt pour hommes virilisés afin de ne pas rebuter ce segment du marché.
Voilà. C'est clair, on les voit les pots de yaourt, genre tout noir, hyper mastoc, genre pour renforcer tes muscles limite. C'est très marketé, ça c'est clair.
Voilà, donc je vous le conseille.
Allô,
allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute?
À Alors, dans le courrier de cette semaine, on a reçu cette question d'une auditrice qui est intéressante. Elle nous demande à quand la fin des parfums genrés ?
Oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, on parle plutôt de parfums unisexes. Le premier, ou en tout cas l'un des premiers, c'était CK1 de Calvin Klein en 1994, à un moment où la mode était plutôt androgyne, mais ça restait plutôt rare pour l'époque. Et effectivement, c'est la mode à nouveau en ce moment. D'ailleurs, pour des marques comme Liberty London, il y a eu une augmentation des ventes de 40% des parfums unisexes en 2018. Donc ça nous donne une petite idée de l'intérêt. Et ça évite en tout cas la segmentation du marché et ça permet aussi d'arrêter de vendre des senteurs qui seraient fruitées ou florales pour les femmes et des notes boisées qui seraient réservées aux hommes.
Ouais. C'est clair.
Voilà, en tout cas, j'espère qu'on a fait le tour de la question de la télé-réalité. Vous pouvez nous écrire pour nous dire si vous en regardez sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court où on parlera du film Promising Young Woman et on fêtera la réouverture des salles de cinéma.
Oui.
Merci. Salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo.
Journaliste chroniqueuse Pauline Verdusier.
Mixage Laurie Galigani. Prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Réalisation, montage et coordination Ashley Tola.